Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. La journée du vendredi du pape François a été marquée par plusieurs audiences privées au Vatican. Parmi ces rencontres, le Saint-Père a reçu en audience le nonce apostolique en Guinée et au Mali, Mgr Jean-Sylvain Emien Mambé. L'évêque de Rome a également reçu en audience vendredi les évêques de la conférence épiscopale de la région nord de l'Afrique en visite ad limina apostolorum. La formation sacerdotale ne doit pas être seulement dogmatique, mais consciente de la réalité historique dans laquelle on vit. C'est autour de cet élément central que s'est articulée jeudi 21 novembre la conférence de présentation de la lettre du pape François sur le renouvellement de l'étude de l'histoire de l'Église par le préfet du dicastère pour le clergé, le cardinal Lazarus Yu-Eung-Sik. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Soudan et en Guinée. Les autorités sud-soudanaises ont enquêté vendredi sur une fusillade jeudi soir à la résidence de l'ancien puissant chef des services de renseignement, Akol Koor. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique sur le continent qui nous conduira aussi au Niger et en Côte d'Ivoire. Dans la deuxième partie de cette édition, nous accorderons d'abord la parole à notre invité du jour, Francis Patindé, enseignant à Sciences Po Paris, et nous terminerons l'édition de notre programme par notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
La journée du vendredi du Saint-Père a été marquée par plusieurs audiences privées au Vatican. Parmi ces rencontres, le pape François a reçu en audience Mgr Jean-Sylvain Emien Mambé, archevêque titulaire de Potenza Picenna et nonce apostolique en Guinée et au Mali. L'évêque de Rome a également reçu en audience les évêques de la conférence épiscopale de la région nord de l'Afrique en visite ad limina apostolorum. La dite conférence épiscopale regroupe le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La formation sacerdotale ne doit pas être seulement dogmatique, mais consciente de la réalité historique dans laquelle on vit. C'est autour de cet élément central que s'est articulée jeudi 21 novembre la conférence de présentation de la lettre du pape François sur le renouvellement de l'étude de l'histoire de l'Église par le préfet du dicastère pour le clergé, le cardinal Lazarus Yu-Eung-Sik. La lettre diffusée, a expliqué le prélat dans la salle de presse du Vatican, rappelle l'importance d'une pleine conscience personnelle et historique de la réalité dans laquelle nous vivons et devons agir, nous invitant à corriger et à éviter une vision trop angélique de notre vie et de notre existence dans l'histoire que nous vivons. Le Saint-Père a donc encouragé dans cette lettre à promouvoir une formation non seulement sacerdotale, mais aussi humaine et chrétienne, vers un horizon orienté vers la construction d'une civilisation de la vérité et de l'amour. Les membres de la conférence des évêques catholiques du Soudan et du Sud-Soudan se sont réunis du 12 au 19 novembre au centre de paix du bon pasteur Akit, dans l'archidiocèse catholique de Djouba au Soudan du Sud. Dans leur déclaration publiée jeudi 21 novembre, les prélats ont exhorté les deux pays à adopter une coexistence pacifique, à rejeter la violence et à travailler ensemble pour une paix durable au milieu de l'escalade des conflits et des crises humanitaires dans ces pays. Plus de détails avec Françoise Niamia.
Nous sommes profondément préoccupés par la détérioration de la situation sociopolitique au Soudan qui est le résultat de la guerre qui a commencé depuis la mi-avril 2023 et qui se poursuit sans aucune chance de paix en raison de l'absence de dialogue. C'est avec ces mots pleins de regrets que les évêques du Soudan et du Soudan du Sud expriment leur douleur face à l'escalade des conflits dans ce pays. Des milliers de Soudanais ont perdu la vie et des millions ont fui leur foyer pour trouver refuge dans des États relativement pacifiques ou dans des pays voisins, ont décrit les prélats, soulignant dans leur déclaration du jeudi 21 novembre que les conséquences humanitaires sur les civils ont dépassé le stade de la tolérance et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. De ce fait, les membres de la conférence épiscopale du Soudan et du Soudan du Sud ont exhorté le peuple soudanais à prendre à survivre ensemble, à rejeter la violence et à œuvrer pour la paix. Les évêques catholiques ont également exprimé leurs préoccupations face à la crise sociopolitique et économique qui perdure au Soudan du Sud voisin, une situation qui, selon eux, a créé un stress humanitaire. Les prélats ont donc appelé le gouvernement et les groupes armés à respecter la vie et à protéger les civils et leurs biens. Ils ont également invité les partenaires internationaux à continuer de soutenir le Soudan du Sud pour qu'il sorte de ce qu'ils décrivent comme des pièges humanitaires et devienne une nation qui valorise la stabilité pour la prospérité.
Merci Françoise. Rendons-nous à présent en Guinée où se tient la formation des séminaristes de l'archidiocèse de Conakry. Cette rencontre qui réunit plusieurs formateurs, séminaristes et laïcs cette année prendra fin dimanche 24 novembre en la solennité du Christ roi de l'univers. Les précisions de Joannita Scholastic.
Tenue une fois chaque deux ans, la 16e édition de la rencontre inter-grand séminaire a débuté ce 19 et se poursuivra jusqu'au 24 novembre 2024. Elle réunit des recteurs des grands séminaires, des formateurs, séminaristes et des laïcs venus sur invitation. Au compte de cette édition, elle connaît la participation des pays, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Au cours de cette rencontre, des conférences, débats, prières sont au cœur de ces journées. Lors de la messe d'ouverture célébrée par Mgr Vincent Koulibaly, l'archevêque métropolitain de Conakry est revenu sur l'importance de la formation des futurs prêtres dans un contexte africain.
En nous plaçant dans le contexte de la rencontre inter-grand séminaire, nous sommes invités ici à former des prêtres capables de former à leur tour des fidèles qui savent proclamer la sainteté et la souveraineté de Dieu. Je souhaite ardemment que nos différents grands séminaires soient des demeures de l'Éternel.
Rappelons que cette messe d'ouverture a été célébrée à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Joannita Scholastic, Conakry, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les autorités sud-soudanaises ont enquêté vendredi sur une fusillade jeudi soir à la résidence de l'ancien puissant chef des services de renseignement à Kolkor, limogé il y a près de deux mois sur fond de rumeurs l'accusant d'ourdir un coup d'État. Une source militaire impliquée dans l'opération a déclaré au quotidien Sudan's Post qu'à Kolkor, assigné à domicile depuis octobre, avait été arrêté après d'intenses combats qui auraient fait des dizaines de morts ou de blessés parmi ses soldats. Lul Roy Kwang, porte-parole des forces de défense du peuple sud-soudanais, a pour sa part affirmé qu'Akol Kor reste à son domicile, rejetant aussi des allégations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles M. Kor aurait fui vers le complexe de l'ONU à Djouba. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont signé jeudi à Niamey un protocole d'accord sur la fin des frais d'itinérance des communications téléphoniques, appelé « roaming ». L'adoption de ce protocole offrira à nos concitoyens la possibilité de communiquer sans le poids du surcoût d'itinérance qui freine la mobilité et les liens entre les peuples, a déclaré au cours de la cérémonie Wenlacida Patrice Compaoré, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, du Burkina Faso. Le protocole établit la gratuité de la réception des appels voix et SMS en itinérance dans la zone AS, a précisé l'ARCEP Burkina Faso sur sa page Facebook. Près d'un million d'Ivoiriens ont demandé à s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025, selon un bilan provisoire annoncé jeudi par la commission électorale après la clôture des bureaux d'enrôlement. La commission électorale indépendante, CEI, a procédé du 19 octobre au 17 novembre à la révision de la liste électorale où elle attendait l'inscription de 4,5 millions de primo-votants. La liste provisoire devrait être affichée dans tous les lieux de vote à partir du mois de mars, selon un responsable de la CEI. Le règlement des contentieux pourra ainsi débuter, conduisant à la publication de la liste définitive au mois de juin 2025. Quelle future politique étrangère en Afrique pour le retour aux affaires de Donald Trump? Si durant son premier mandat, le président américain a montré peu d'intérêt pour l'Afrique, son retour pourrait lui permettre d'intervenir de façon plus dynamique, non pas pour le développement des pays africains, mais pour contrecarrer les investissements de la Chine et défendre les intérêts américains, selon les analyses de Francis Patindé, enseignant à Sciences Po, Paris, qui est l'invité du jour de cette édition.
Il y a eu plusieurs types de réactions. Il y a ceux qui n'ont pas apprécié parce qu'ils ont gardé un mauvais souvenir des 4 années passées par le président Donald Trump à la présidence des États-Unis, donc par le passé. Il y a ceux qui ont pris sa réélection, son retour au pouvoir avec beaucoup de distance, d'indifférence, on va dire. Et puis, il y a, à mon grand étonnement, beaucoup d'Africains qui ont salué le retour de Donald Trump au pouvoir. C'est très, très étonnant si vous prenez en compte que ce monsieur a fait 4 ans à la tête des États-Unis sans aller en Afrique. Deuxième argument, ce monsieur a quand même traité certains pays africains de pays de merde, pour parler de façon triviale. Il faut replacer cela dans le courant actuel conservateur qui traverse le monde. Le conservatisme ne concerne pas que l'Occident et il touche également l'Afrique, dont il y a beaucoup de patriotes avec beaucoup de guillemets africains qui ont salué son arrivée au pouvoir et qui ont pris son retour au pouvoir comme une défiance par rapport à l'Europe, par exemple, par rapport à la guerre qui se déroule en Ukraine.
Les gouvernements africains souhaitent que la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, soit prolongée au-delà de 2025. Que fera Trump ?
Trump privilégie les relations commerciales bilatérales. C'est quelqu'un qui est contre le multilatéralisme. Donc, pour certains pays africains comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud éventuellement, et quelques autres pays pétroliers d'Afrique, ça peut être intéressant en termes de business, en termes de commerce, en termes bilatéral. Mais l'expérience passée nous a prouvé qu'il était contre tout accord global, tout ce qui pouvait toucher le continent dans sa globalité. Donc, au vu des nominations qu'il a déjà faites, il faut craindre qu'on revienne au bilatéralisme. Lui, il va privilégier les accords bilatéraux plus favorables aux intérêts américains. Parce que l'intérêt pour l'Afrique de cet accord global, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. On peut négocier en force, on peut aller exporter nos produits, pas de façon bilatérale, mais de façon globale. Et Trump voit qu'il y a un piège pour les intérêts américains. À mon avis, il va renégocier ces accords-là, d'autant plus qu'il a déjà toujours exprimé des réserves quant à tout ce qui est global. Il avait proposé, vous vous en souvenez sans doute, des réductions significatives de l'aide internationale, y compris pour les programmes destinés à l'Afrique. Le Congrès a dû intervenir pour atténuer les coupes qu'il avait proposées, mais je pense que la nouvelle administration Trump, à partir de janvier, pourrait renouveler ses efforts et affecter les initiatives clés en matière de santé, d'éducation et de développement économique pour l'Afrique.
Donald Trump a-t-il des ambitions économiques sur le continent ? Quel pays pourrait l'intéresser ?
Alors, sur le terrain économique, bon, il y a un pays capital pour les États-Unis comme le Kenya, où les Chinois sont omniprésents. On a remarqué que les administrations passent et en fait, le Kenya intéresse au plus haut point les Américains. C'est un pays qui est en plein développement, c'est un pays qui sait communiquer également, c'est un pays où il y a une présence militaire, elle est peut-être discrète, mais elle a une présence militaire américaine. Donc c'est un pays qui permet aussi de contrôler la Somalie, de contrôler donc l'océan Indien de manière un peu plus dynamique, d'avoir un œil sur l'Éthiopie. Et vous voyez, il y a une base américaine à Djibouti. Il y a l'Afrique du Sud, par la force des choses, mais l'Afrique du Sud, c'est comme un cactus, c'est un caillou sous les pieds des Américains. C'est un pays qui résiste, où les États-Unis n'ont pas bonne presse, si je puis dire. Il y a également le Nigeria, par la force des choses, vous pouvez comprendre pourquoi, à cause du pétrole et du gaz. Il y a l'Angola, peut-être un peu l'Éthiopie. En Afrique du Nord, par exemple, il faudra voir un peu la relation avec le Maroc, l'Algérie et, bien entendu, l'Égypte.
Vous venez de suivre Francis Patindé, enseignant à Sciences Po Paris. Il était interrogé par Augustine Asta. Refermons cette édition avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité internationale de la semaine avec la célébration mercredi 20 novembre de la Journée internationale de l'enfance ou des droits des enfants. Le choix du 20 novembre fait référence à la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/252 du 20 novembre 1989. Cette adoption découle elle-même de la Déclaration des droits de l'enfant en date de 20 novembre 1959. Au Proche-Orient, les mandats d'arrêt émis jeudi par la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont suscité une vague de réactions à travers le monde. Les détails sur le dossier avec Valérie Ferron.
La direction palestinienne s'est félicitée de la décision de la Cour de justice internationale et a réaffirmé sa détermination à agir auprès de toutes les instances juridiques pour faire condamner ceux ayant commis des crimes contre le peuple palestinien. Le vrai défi à présent est de faire appliquer la décision. La présidence palestinienne a en conséquence appelé tous les États membres des Nations unies à couper les contacts avec Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Elle appelle également à une action immédiate pour faire cesser, je cite, l'agression israélienne génocidaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem. La Cour internationale de justice avait au départ désigné trois dirigeants du Hamas comme auteurs de crimes le 7 octobre 2023, le numéro un du mouvement, Ismaïl Haniyeh, qui a été assassiné par Israël à Téhéran en août dernier, et Yahya Sinwar, qui est mort en combattant les troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Reste Mohamed Deif, le chef de la branche armée du Hamas, qu'Israël a affirmé avoir tué, ce que le mouvement a démenti. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Les frappes israéliennes meurtrières se sont poursuivies à Gaza et au Liban. En Syrie, des ONG indiquent 92 morts dans des frappes israéliennes contre des groupes pro-iraniens. Près de 230 agents de santé ont été tués au Liban à compter du début de la guerre à Gaza, la plupart depuis l'escalade entre Israël et le Hezbollah en septembre dernier, a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Le tir de missiles balistiques hypersoniques de la Russie sur l'Ukraine constitue une terrible escalade dans ce conflit. C'est ce qu'a affirmé jeudi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, estimant qu'il s'agit d'un nouveau développement inquiétant et préoccupant. Il a appelé les parties à prendre des mesures urgentes vers une désescalade pour assurer la protection des civils et des infrastructures civiles critiques, répétant l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à une fin de cette guerre dans le respect du droit international. L'Iran a annoncé vendredi la mise en service de nouvelles centrifugeuses avancées en représailles à l'adoption d'une résolution critique à Vienne condamnant les activités nucléaires de Téhéran, pointée du doigt pour son manque de coopération. Le texte élaboré par Londres, Paris et Berlin, associé à Washington, a été approuvé jeudi par 19 de 35 États membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. La présidence azerbaïdjanaise de la Conférence sur le changement climatique de l'ONU à Bakou a proposé vendredi que les pays développés s'engagent à 250 milliards de dollars de financement annuel pour les nations plus pauvres, un chiffre publié à quelques heures de la fin officielle de la COP29. Le gouvernement japonais a approuvé vendredi un plan de relance équivalent à 136 milliards d'euros pour doper le pouvoir d'achat des consommateurs face à l'inflation moins d'un mois après un cuisant échec électoral de la coalition au pouvoir.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.